pardonnez-moi, je suis un petit peu fatigué parce que les horaires des gens de théâtre ne sont pas du tout ceux des gens normaux. Donc je me suis couché à 6h du matin, comme je le fais quasiment tous les jours. Parce qu'on travaille vraiment très tard, il y avait encore des représentations hier soir au théâtre. Donc je dirige un théâtre qui s'appelle le Théâtre du Nord-Ouest à Paris. Il y a deux salles. C'est un théâtre qui a la particularité de ne pas être comme les autres. C'est-à-dire que aujourd'hui, mon livre essaye de le dire un petit peu, il n'y a quasiment plus de théâtre en France, quasiment plus de théâtre à Paris. Il y a de plus en plus de spectacles. Et il y a une différence fondamentale entre le spectacle et le théâtre, et c'est ce que j'essaye d'expliquer. Donc de plus en plus, pour des raisons qui sont des raisons matérielles, on ne peut plus faire de théâtre à Paris. Voilà, donc c'est un vrai problème. Il n'y a jamais eu autant de théâtre, de lieux de théâtre, il n'y a jamais eu autant de pièces de théâtre. Et pourquoi? Pour des raisons économiques en grande partie, parce que notre activité n'a aucune rentabilité possible. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou d'une autre pour se rendre compte que si vous voulez monter une pièce dans des conditions financières normales, le rapport entre le prix du billet et puis la rentabilité, le coût d'un spectacle, c'est quasiment impossible. Ce qui fait qu'avant, vous aviez des subventions qui permettaient d'équilibrer économiquement les spectacles, et maintenant, comme ces subventions disparaissent, les politiques et la cité se désintéressant de l'art dramatique, de plus en plus, ça devient impossible. Et donc, il faut que les artistes se prennent en main et créent à leur façon, sans tenir compte des problèmes de rentabilité. Donc, le Théâtre du Nord-Ouest, il repose sur cette idée-là. La grande idée, c'est de remplacer la production de l'argent qu'on n'a plus par la production du travail, cette production du travail permettant la liberté de créer. Donc, on peut se permettre, que je fais, de monter un spectacle avec 15 ou 18 comédiens dans une salle de 60 places, ce qui, évidemment, serait absolument impossible dans n'importe quel à Paris. Le problème à côté de ça, c'est que nous sommes et nous travaillons dans une illégalité totale parce que dans nos métiers, à cause des conventions collectives et à cause des lois, on n'a pas le droit de travailler gratuitement. Donc, ce Théâtre du Nord-Ouest, il apporte aux spectateurs des spectacles que personne ne peut plus apporter. Même la Comédie Française ne pourrait pas financer les spectacles que nous faisons. Pour vous donner une idée, il y a une cinquantaine de spectacles qui se jouent en alternance sur un thème. Il y a 500 comédiens qui travaillent dans ce théâtre. Donc ça serait absolument impossible, même sur le tarif syndical, de payer tous ces gens-là. Donc nous travaillons d'une manière quasi gratuite, et ça n'empêche pas qu'en plus on est en redressement judiciaire. Enfin, bon. Donc c'est la situation du théâtre à Paris. Et c'est d'autant plus terrifiant qu'on ne se rend absolument plus compte à quel point le théâtre est nécessaire à la cité. Pourquoi le théâtre est nécessaire à la cité? Pour une raison très simple, c'est parce que c'est le seul art qui peut montrer l'homme dans sa globalité. Alors, je vais vous donner un exemple. À mon grand désespoir, ma fille, qui a 16 ans, me dit l'autre jour, alors qu'elle est très bonne comédienne, elle me dit l'autre jour qu'elle a décidé de devenir médecin. Alors, vous rendez compte, pour un homme de théâtre comme moi qui a passé sa vie à faire du théâtre, c'est la déchéance absolue. Ma fille qui veut devenir médecin. Bon, c'est là. Alors, j'ai essayé de lui expliquer. Elle a cru que je plaisantais. Je plaisantais un petit peu, bien entendu. J'étais en train de lui expliquer à quel point tout ceci était dommageable. Parce que faire du théâtre, c'est voir les choses dans leur globalité. Tandis qu'être médecin, c'est s'occuper d'un corps, s'occuper d'un... Voilà. Le théâtre peut parler de la médecine, mais la médecine ne peut pas parler du théâtre. C'est toute la différence. C'est-à-dire que grâce au théâtre, on peut toucher le monde entier. Une vie comme la mienne, maintenant j'ai 68 ans, ça a été une vie absolument passionnante parce que j'ai visité tous les pays du monde sans même me déplacer. J'ai rencontré tous les êtres du monde parce que j'ai joué les personnages les plus incroyables. J'ai rencontré... Donc tout le monde entier est dans le théâtre. C'est le mot de Shakespeare. Hein. Le monde entier est dans le théâtre. Et quand on fait un métier particulier, que ce soit médecin, évidemment je blaguais, hein, que ce soit médecin ou professeur ou n'importe quel autre métier, etc., on fait une partie des choses. Tandis que là, on peut visiter le monde dans sa globalité. Le théâtre permet de montrer l'homme dans sa globalité. C'est ça qui est absolument essentiel. Vous avez, si vous êtes par exemple sculpteur ou musicien, ou, eh bien qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une partie du monde et vous le donnez à voir, vous le donnez à entendre. Le théâtre permet cette globalité-là. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un musicien sur un plateau, mais vous ne pouvez pas avoir... Le théâtre n'est pas réduit à la musique. Voilà. Donc c'est ça qui est absolument formidable. C'est pour ça que c'est l'essentiel. Dans la cité, aujourd'hui, on passe à côté de son frère humain. Au théâtre, vous payez votre place et vous le voyez vivre et agir. Et tout le problème, c'est de savoir si cet être humain est véritablement un être humain dans son entièreté. Alors qu'aujourd'hui, on ne voit plus que des spectacles, c'est-à-dire non plus des personnages qui sont dans la réalité, dans leur vérité d'être, mais des archétypes. C'est-à-dire qu'on va sortir quelqu'un, puis on va vous montrer, par exemple, si vous montez aujourd'hui l'avare, eh bien on va vous montrer l'avarice. Alors qu'Harpagon, il est beaucoup plus qu'un avare. Bon, mais c'est tout ce théâtre-là qui est en train doucement de disparaître. Et donc, au Théâtre du Nord-Ouest, on essaie de donner une idée un petit peu globale de tout ça, et ça permet ça, parce que ça, on ne rentre pas dans cette prison, de l'économie et de l'argent. On ne sacrifie pas au veau d'or. Donc ça a été quelque chose de très important. Je vais vous citer, j'ai donné un petit passage, ça va vous donner une idée un petit peu de l'état de ce qui se passe et du regard que les politiques ont sur le théâtre. Je cite un passage, je vais vous le dire. Le 28 septembre 2015, sur France 3, dans l'émission à l'Élysée, un temps de président, on a assisté à une scène surréaliste qui, par sa portée symbolique, pourrait être un jour un témoignage pour l'histoire. François Hollande, alors chef de l'État, Emmanuel Valls, Premier ministre de la France, bavarde sur la terrasse de l'Élysée, côté jardin, hein, et donc côté cour, avec la très sympathique Fleur Pellerin qu'ils viennent de nommer ministre de la Culture. Non pour lui parler de l'œuvre de Patrick Modiano, ce qui était plutôt judicieux, mais pour lui prodiguer quelques conseils. Alors cela donne ceci. Hollande. Il y a plein d'idées qu'on peut avoir. La force de langue, c'était ça quand même. Hein. Il était capable d'avoir des idées. Il faut des idées. Hein. Vois Jack, il y a des idées. Valls, vois-le, il sera ravi. Hollande. Premier rendez-vous à avoir, c'est Jack. Valls. Et Monique. Hollande. Et Monique, bien sûr. Valls. Tu peux l'utiliser. Alors, on voit à l'image notre fringante jeune ministre rigoler un peu sans vraiment que l'on sache si c'est l'évocation de son si brillant prédécesseur, le bon Jack, ou celle de son égérie d'épouse qui lui procure ce petit bonheur. Et l'émission de se poursuivre. Valls. Voit Jean-Jacques Ayagon. Hollande. Oui, les anciens ministres. Jean-Jacques. Valls. Va au spectacle. Hollande. Tous les soirs. Hein, il faut que tu tapes ça. Hein, et dis que c'est bien, hein, que c'est beau. Hein, il va être aimé. Un tel cynisme, un tel mépris est déjà réjouissant, même si, bien sûr, le cher président veut faire de l'humour. Mais le plus beau, peut-être, est à venir. Hollande. Il y a aussi une dimension économique. Ils sont très fiers d'être un levier économique. Il ne faut pas penser que cela ne les intéresse pas. Alors, je conclue en disant, imaginons une seconde la même conversation avec De Gaulle, Pompidou et Malraux, et on aura compris l'étendue des dégâts. Voilà. Voilà vraiment où on en est sur le plan du théâtre et sur le plan du regard que les politiques et la cité ont sur le théâtre. Nos politiques se désintéressent complètement du théâtre parce que ça ne représente pas beaucoup de citoyens qui votent, ça ne représente pas ça. Donc les subventions sont en train de disparaître complètement. Donc l'économie redevient une économie du réel. Le réel, c'est-à-dire le prix du billet face au coût des spectacles, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, il est impossible de monter un spectacle de plus de 3 comédiens dans un théâtre. Résultat des courses, vous avez à Paris plus de 150 one-man shows, hein, des spectacles qui se jouent avec 2 comédiens, 3 comédiens maximum. Le niveau est devenu absolument terrifiant sur le plan de la... Parce que ce qui marche un peu, c'est ce qui est comique, grossier, vulgaire, les pièces un peu importantes, un peu essentielles, celles qui peuvent transformer le monde, celles qui peuvent amener de l'empathie, celles qui peuvent être ce à quoi sert le théâtre, c'est-à-dire le miroir, eh bien, ça n'existe quasiment plus. Et on se retrouve avec 400 spectacles à Paris en ce moment, que vous pouvez voir chaque jour. Et sur ces 400 spectacles, ben vous avez 10 ou 15 vraies pièces de théâtre. Voilà le résultat des choses. Donc c'est une désespérance, et c'est pourquoi j'ai écrit ce petit bouquin qui j'espère, va avoir quelque impact pour changer les choses. Voilà ce qu'on peut dire. Je ne sais pas si...
précision concrète sur comment fonctionne votre théâtre, les pièces qui sont présentées, le cycle, enfin des choses un petit peu concrètes.
Alors, le théâtre, nous, on fait, voilà ce qu'on fait, à peu près. L'idée, c'est 6 mois monter des spectacles autour d'un thème et 6 mois autour d'un auteur. Alors, par exemple, on est le seul théâtre à avoir peut-être fait au monde l'intégrale des pièces de Shakespeare. Il y avait toutes les pièces de Shakespeare, toutes, sans exception. Ça vous demande, on a fait la même chose avec, on a eu toutes les pièces de Molière, toutes les pièces de Corneille, toutes les pièces de Monterland, toutes les pièces de Claudel, de Strindberg, enfin vraiment c'est un, même de Labiche et de Feydeau, oui, bon. Mais Feydeau et Labiche traités dans leur humanité, hein, c'est pas sur le plan seulement comique. Et puis là je vais faire après ce cycle, je vais faire une intégrale Ibsen. Et puis à côté de ça, on fait un thème. Alors en ce moment, le thème, c'est spiritualité et religion. Alors donc, il y a des tas de pièces qui tournent autour de ça. Là, je suis en train de répéter Polyeucte de Corneille, qui est sur ce thème. Je viens de monter Nathan le Sage, la pièce de Lessing, qui est une petite merveille qui met en rapport les 3 religions du livre. Je viens d'écrire un Mahomet qu'on joue là, en ce moment. Le théâtre n'a pas brûlé, contrairement à tout ce qu'on disait, mais enfin bon... qu'est-ce que j'ai monté là-dedans sur ce thème, le péché et la grâce, une pièce magnifique de Giraudoux, qui est peut-être une des plus belles pièces de Giraudoux méconnues. Donc, et il y a la jeune fille violaine, il y a plein de metteurs en scène aussi étrangers ou qui viennent d'autres biais, qui travaillent. C'est un théâtre où vous pouvez retrouver des gens de la comédie française et puis à côté de ça, des débutants, je vous dis 500 comédiens, voilà, c'est... On n'a jamais fait ça. Et en plus de ça, sur un autre plan, sur le plan politique, on prend des spectacles qui peuvent être totalement d'extrême droite comme totalement d'extrême gauche. En ce moment, par exemple, j'ai une pièce en ce moment de Brasillac, la Reine de Césarée, qui est une des plus belles pièces de Brasillac. Alors, l'autre jour, on me disait, mais comment tu peux prendre du Brasillac? J'ai dit, attendez, il a été fusillé, ça va, je suis gaulliste. Donc, bon, Brasillac, c'est pas ma tasse de thé. Bon, ben, n'empêche que la pièce est belle, et puis voilà, puis point final. Et puis je prends des pièces d'extrême gauche, d'extrême droite, sur le plan religieux, c'est pareil, mais lié aussi à une identité. Moi, j'ai jamais caché tous les comédiens. On sait très bien que les comédiens dans notre monde, les comédiens sont tous athées et de gauche. Et moi, tout le monde sait que je suis gaulliste et catholique. Donc, voilà, ça ne m'empêche pas de partir à partir de ça et d'accueillir les gens les plus divers, même avec des gens qui ne pensent pas comme moi, avec lesquels on peut se jeter, me heurter, me bagarrer. Et c'est très important, c'est des lieux qui permettent de réfléchir, qui permettent de combattre, qui permettent de discuter. Voilà, bon. Voilà, donc ce n'est pas une vraie entreprise au sens économique du terme. C'est une entreprise qui essaye de tourner l'économie. Et c'est la seule, et c'est malheureusement la seule solution aujourd'hui, parce que ça n'est pas viable. On aurait les subventions de la Comédie française, qu'on n'y arriverait pas. Même avec les subventions de la Comédie française, ça ne suffirait pas. Donc l'idée, comme je le disais, c'est que les artistes se prennent en main, n'attendent pas on ne fait pas les choses pour les subventions, contrairement à ce qui est en train de se faire. On fait les choses pour que les spectateurs, quand ils rentrent dans notre théâtre, eh bien, quand ils sortent, il faut qu'ils soient différents quand ils sont entrés, parce qu'ils ont été nourris de quelque chose, ils ont été apportés. On leur a apporté quelque chose, et ce qu'on leur a apporté, eh bien, c'est l'homme, c'est leur frère. Ils peuvent voir leur frère, voir comment agissent leurs frères. Parce qu'on a la chance d'avoir de tellement grands auteurs, quand vous voyez Molière et Corneille, là, je suis en train de répéter Polyeute, pourquoi Polyeute et Corneille existent encore aujourd'hui? Parce qu'il a une connaissance de l'être humain, c'est d'une subtilité absolument formidable. Et une pièce comme Polyeute, ça n'est pas seulement une pièce d'un vieux catholique méchant qui va faire comme un palmier rebriser des idoles. Hein, c'est pas seulement ça. C'est une subtilité, on comprend pourquoi tout d'un coup il arrive à briser des idoles pour des raisons qui sont à la fois amoureuses, qui sont à la fois de fragilité d'être, qui sont à la fois... Voilà. Et il y a tout ça dans Corneille. Et c'est ça qu'on essaye de montrer. On montre un homme, un être humain, et pas comme je disais tout à l'heure, un archétype de quelqu'un qui va donner des coups de marteau pour briser. Voilà. Nous, quand vous regardez la télévision, vous voyez Palmyre. Je suis allé à Palmyre il y a 3-4 ans, donc ça fait particulièrement mal de voir ce que certains musulmans ont pu faire à Palmyre. C'était affreux. Ben là, tout d'un coup, on voit, nous, à la télévision, on voit la destruction de Palmyre. Mais le théâtre, ça permet de voir comment un individu en arrive à aller briser ou faire sauter quelque chose. Donc c'est toute la différence. La télévision va vous montrer la chose brute, et le théâtre va permettre de montrer le cheminement de l'être humain, de l'individu qui va faire ça, qui va créer, qui va en arriver à cet acte-là. Et c'est pour ça que c'est absolument, absolument essentiel. Donc je le répète, dans cette formule, c'est vraiment l'homme dans sa globalité. Le théâtre ne peut fonctionner que si on est esclave de rien, ni de l'idéologie, ni de l'argent, ni de la peur. Quand je vous dis, quand j'ai écrit cette pièce sur Mahomet, qui est une pièce très 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 violente, hein, puisqu'elle met en confrontation un chrétien et le prophète lui-même. Hein. Bon, pour écrire cette pièce, j'ai lu tout le Coran, j'ai lu les hadiths du prophète, j'ai tout lu. Donc il n'y a pas un mot qui n'est pas... Bon, c'est très très violent, c'est très très fort. On me dit, ça va brûler, le théâtre va brûler, il va y avoir c'est fou de faire ça. C'est pas... Eh bien, il faut, quand on fait du théâtre, avoir le courage de montrer les choses dans leur réalité, quitte à prendre le risque, que ce soit des risques financiers, que ce soit des risques politiques, que ce soit des risques humains, que ce soit des... Voilà. Alors évidemment, pour revenir à ma fille, qui veut être médecin, elle a plus de chances de gagner sa vie que moi qui me retrouve à 68 ans couvert de dettes avec des huissiers partout parce que ça se passe comme avec Molière, hein. Vous êtes en train de répéter et vous voyez, ça m'est arrivé 10 fois, les huissiers arrivaient et enlevaient tous les décors et tous les costumes, hein. ça arrive souvent. Le théâtre, il est couvert de dettes. Pour vous donner une idée, je suis arrivé à 600 000 euros de dettes avec mon théâtre, donc on est en redressement judiciaire en ce moment. Tout ceci n'est pas rentable, mais et c'est le plus important. On ne doit pas mourir dans sa vie. Donc il faut faire, et ça c'est le vrai travail, c'est la seule chose à faire dans l'existence, il faut faire le travail, il faut obéir au don que Dieu nous a donné et faire le travail que nous devons faire sur la terre. Et nous devons ne pas mourir dans notre vie. Et qu'importe, comme je dis toujours, les cimetières sont pleins de gens riches, donc quand on travaille, vous êtes jeune, ce qui compte, c'est de ne pas perdre sa vie et de faire le travail, parce que c'est insupportable aujourd'hui la société, ça devient totalement insupportable. On vous dit, mais combien vous allez gagner, quand on a vu des jeunes faire maintenant des manifestations pour la retraite, enfin c'est insensé. Le problème n'est pas la retraite, le problème c'est qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apporte aux autres. Et quand on a des dons, on doit les développer, on doit les faire, que ça soit... on a vu tout à l'heure, on a visité cette petite usine avec des gens qui travaillent, qui étaient passionnés par leur travail. Donc tout le monde ne peut pas être médecin, comédien. Il y a des gens qui sont faits pour être ouvriers dans un travail. Il y a des gens qui sont faits pour être gendarmes. Il y en a d'autres qui sont faits par là. Ce qu'il faut, c'est obéir à ça et être heureux à l'intérieur de son travail. C'est ça qui compte. Si on est heureux à l'intérieur de son travail, bien on va rendre les autres heureux. Et c'est ce partage-là. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons avoir un lien direct avec ce qui se passe ici.
Okay. Merci.